d'abord, on a envie aussi de se faire convaincre, hein, bien évidemment. Comment la France peut-elle sortir de cette morosité qui semble lui coller à la peau? Et donc, pour en débattre, j'ai invité Jean-Pierre Jouyet, chef de l'inspection générale des finances. Il est professeur associé à Sciences Po. Il est auteur de N'enterrez pas la France aux éditions Robert Laffont avec le journaliste Philippe Mabille. Philippe Delmas, dans ses retours dans l'édition, j'allais dire, auteur de Il n'y a pas de malheur français. Très joli titre aux éditions Grasset. Et Xavier Guillou est président de XAG Conseil. Alors, lui, c'est vraiment un spécialiste des crises, j'allais dire, parfois politiques, militaires, graves. Et il se lance dans la politique, en quelque sorte, avec ce livre, Quand la France réagira, aux éditions Erol. Alors, Jean-Pierre Jouyet, on va commencer avec vous. Je sens bien, parce qu'il y a votre passé de haut fonctionnaire, vous avez été aussi directeur adjoint du cabinet de Lionel Jospin, vous connaissez comme personne l'appareil d'État, les arcanes de l'État, et puis à un moment donné, on vous a senti bouillir, vous ne pouviez plus supporter ces livres déclinistes, cette France qui tombe, et vous vous êtes dit, là, c'est trop, il faut réagir, il faut écrire quelque chose. Donc, c'est venu de ce réflexe-là ?
C'est exactement cela, vous avez tout à fait raison. C'est venu d'un sentiment que ce que l'on décrivait, c'est-à-dire un pays qui, à chaque fois, ou des responsables politiques ou des éditorialistes, qui cherchent toujours à faire croire, d'une part, aux citoyens que l'on peut vivre comme on vivait il y a 20 ans, ce qui, malheureusement, n'est pas vrai. J'aimerais bien que cela soit également le cas, mais nous vivons dans un monde différent de celui qu'il était, ne serait-ce qu'il y a 20 ans. Deuxièmement, ça vient du fait que lorsque vous êtes au service de l'État, et lorsque vous avez occupé différentes fonctions, j'en ai occupé également à Bruxelles, j'ai vu comment est-ce qu'on regardait la France.
Vous aviez dirigé le cabinet de Jacques Delors, quand il était président de la Commission européenne.
Paradoxalement, les gens qui sont à Bruxelles ou qui sont à l'étranger ont une vision de la France qui est plus positive que les Français eux-mêmes. Et troisièmement, on oscille toujours entre un certain masochisme, un certain dénigrement, que ce soit...
Il y a une culture nationale, Jean-Pierre Jouyet, il y a un tropisme national, une maladie nationale. Peut-être cette idée de s'auto-flageller, vous le dites, il faut aller à l'extérieur pour comprendre que la France va pas si mal.
Mais quand vous regardez les enquêtes des magazines anglo-saxons sur les performances économiques
la française, la France bouge plus que
la bouge vous plus le croyez. Qu'on le croit et tout. C'est un peu ce qui, avec Philippe Mabille, dans N'enterrez pas la France, nous a conduit à prendre, j'allais dire, la plume et à dire ce que l'on avait vu, soit à titre d'observateur, soit à titre d'acteur. Et le second point, c'est, je vous le dis, on hésite toujours entre, on aime bien d'une part les révolutions, mais je pense pas que l'époque moderne et le siècle dans lequel on entre soient propices à des grandes convulsions et qu'on puisse se donner le luxe de l'espérer, bien au contraire. Et deuxièmement, on rêve toujours d'une certaine grandeur qui serait perdue. Alors la France est un grand pays qui a toujours une influence très grande dans le monde, mais les données objectives font que ça reste une
puissance
moyenne.
Et il faut accepter simplement que la France est peut-être aujourd'hui simplement une puissance moyenne. Après tout, c'est peut-être déjà pas mal. Alors Philippe
Delmas,
c'est déjà bien, oui. Il n'y a pas de malheur français, j'ai dit tout à l'heure que c'est un très beau titre, je l'aime beaucoup. Ça me fait penser à la phrase de Brassens que vous retournez, hein, il n'y a pas d'amour heureux. et là, il n'y a pas de malheur français.
Je suis sur des accords formels avec Brassens, je tiens à dire.
On est bien d'accord. Et ça, au moins, ça fera un point. Ça fera un point de consensus entre nous. Mais revenons à la France, si vous le voulez bien. Et il y a, comme toujours d'ailleurs dans vos livres, il y a toujours, je me souviens d'une, je crois votre précédent, il y avait une formidable citation de Gaulle sur les Allemands, si j'ai bonne mémoire. Et là, vous nous gratifiez, si j'ose dire, d'une citation de Saint John Perse, dont je lis juste la fin. Le pessimisme n'est pas seulement une faute contre nature, c'est une erreur de jugement autant qu'une désertion. C'est le péché contre l'esprit, le seul irrémissible.
Ah, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez cité ça. J'ose jamais le faire. C'est un des plus beaux textes de Saint-Jean.
C'est magnifique.
C'est un tout petit texte qu'il a écrit en réponse. Il était secrétaire général du Quai d'Orsay à l'époque et on lui demandait ce qu'il pensait de la politique. Et il a répondu par un texte très court qui s'appelle « De l'optimisme en politique » et qui s'applique admirablement à la situation
Et qui va bien à l'époque. Hein, on en a besoin.
Admirablement.
Alors vous êtes un homme d'entreprise. Vous avez donc, j'allais dire, votre regard est complémentaire avec celui de Jean-Pierre Jouyet qui connaît aussi l'entreprise par ailleurs.
Oui, absolument. Une longue histoire commune avec Jean-Pierre sur des entreprises dont on parle beaucoup en ce moment.
Voilà, qui ne vont pas nous occuper ce matin. Mais
heureusement.
voilà, il n'y a pas de malheur français. Alors, il n'y a pas de fatalité. Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors, d'où vient l'envie d'écrire là-dessus ? Très simple. En croisant un sondage l'an dernier, absolument extraordinaire. Une enquête demande aux Français, est-ce que vous êtes heureux de votre existence ? L'enquête date du printemps, enfin de la.
Je crois
début
que c'était dans Je les échos, non ? Ou je ne sais plus.
Pas. Et 80% des Français interrogés sur leur propre vie répondent oui, je suis heureux. Et vous posez aux mêmes personnes ensuite la question, est-ce que vous pensez que les Français sont heureux ? 70% des Français vous répondent non.
Ouais. C'est paradoxe, c'est paradoxe français. Hein.
C'est quand même extraordinaire.
Vous savez, je fais juste une petite parenthèse, Philippe Delmas, il y a quelques instants dans le premier débat, nous parlions de l'entreprise. Et c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on demande aux Français, est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous pensez des patrons en général ? Oh là là, les patrons, une catastrophe, extrêmement négative. Mais de votre patron en particulier, ah, il est bien le mien. Voilà, il y a ce paradoxe, c'est ce trait de caractère des Français.
Alors, est-ce que c'est un trait de caractère des Français ? Moi, je ne crois pas du tout, justement. Parce qu'il y a une chose que je constate, c'est qu'au fond, les Français ont exactement les mêmes problèmes que tous leurs voisins. Alors, je vous en donne une mesure tout à fait spectaculaire. Et qu'est-ce que c'est que ce problème ? Ce problème, c'est qu'au fond, les citoyens des grandes démocraties modernes ne croient plus aux gens qui leur prescrivent des normes, qui leur disent comment il faut penser, comment il faut agir, qu'ils parlent d'une parole d'autorité et d'expertise plus ou moins crédible. Et vous en avez une mesure absolument extraordinaire, ne fût-ce que sur les deux dernières années, c'est de voir dans des pays extrêmement dissemblables, à l'occasion d'élections, des pays qui se partagent à 50-50 entre des programmes totalement opposés. Entre les démocrates et les républicains en 2004 aux États-Unis, il y a 0,1% d'écart. Dans les élections en Italie, l'an dernier, entre Berlusconi
ça
et Prodi,
se joue
à 0,06%. Au Mexique, 0,1%. En Allemagne, 0,2%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que partout, les citoyens ne croient plus tellement les politiques que les contenus les indiffèrent. Alors qu'est-ce qui fait ? Et les Français sont ni plus ni moins que les autres. On le voit bien, ne fût-ce que dans les débats actuels. Alors, en revanche, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que les Français, après tout comme les autres, en tirent, semble-t-il, une plus grande difficulté ? Une chose extrêmement simple, c'est que dans tous les autres pays, le fait que l'État et les gouvernements soient crédibles ou pas n'a pas d'importance parce que la vraie vie politique, la vraie vie tout court, elle se passe localement. Elle se passe dans la province, elle se passe dans l'État fédéré, elle se passe dans la ville. On ne compte pas sur l'État. En France, la tradition, depuis 350 ans, c'est qu'on s'appuie sur l'État. Donc le jour où l'État manque, nous sommes plus démunis que les autres. Mais sur un fond qui est exactement
l'État,
le même.
L'État, l'autorité, tout l'État, ça a un lien, bon, bien
voilà.
Sûr.
Hein. Ça nous met dans une situation très contradictoire et assez inconfortable, où nous ne voulons plus ce que l'État fait, c'est-à-dire de la norme, de la direction, de la parole d'autorité, mais nous demandons quand même à ce même État de nous prémunir contre les excès du libéralisme, de la concurrence et de l'individualisme que nous réclamons.
On va y revenir parce que bien évidemment, le toucher à l'État, c'est toucher à la représentation que nous avons de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental et qui occupe
dur.
Aussi le livre de Jean-Pierre
c'est
Jouyet.
C'est pour ça que c'est dur et que nous sommes pessimistes en général et optimistes en particulier.
Je voudrais donner la parole à Xavier Guillou qui publie lui donc aux éditions Erol quand la France réagira. Alors vous, on ne vous attendait pas tellement sur ce terrain-là, pardonnez-moi Xavier Guillou, parce qu'on vous connaît comme un expert des crises, d'ailleurs je le disais tout à l'heure, des crises militaires, vous nous parlez du Liban, de l'Afrique ou d'autres régions du monde où ça bataille, j'allais dire, les armes à la main. Alors on n'en est quand même pas, ce n'est pas la guerre civile en France, on n'en est pas là. Mais dans le début de votre livre, c'est tout à fait saisissant, vous prenez ces exemples étrangers où ça bataille, où ça va même très très mal. Vous nous parlez de l'Argentine au moment où l'Argentine décroche. Vous dites, voilà, il y a, vous trouvez dans les situations que vous avez rencontrées dans des terrains extrêmement difficiles, conflictuels, des choses qui vous font penser à la France. Pourquoi ?
Bon, c'est vrai que mon quotidien, c'est l'international. Hein. C'est, donc, j'ai un regard de la France qui est un peu particulier, qui est celui de celui qui arrive à l'aéroport et quand il revient du grand large, côtoie nos concitoyens qui sont parfois un peu tristes. Alors, on se demande pourquoi, parce que nos aéroports sont absolument fantastiques. Enfin, ils regorgent d'opulence, de luxe, de sécurité, tout ce qu'on peut imaginer. Et... en fait, quand j'ai eu l'idée d'écrire ce livre-là, c'est suite à beaucoup de questions qui m'ont été posées par beaucoup de chefs d'entreprise, des étudiants, des représentants de la société civile depuis 3-4 ans sur le terrain. Beaucoup me disaient, bon, on comprend à peu près grosso modo ce qui se passe. On voit bien les Chinois, les Indiens, tout ça, ça bouge. Le Moyen-Orient, au début, on n'a pas trop bien compris, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose de grave et d'essentiel. mais on n'arrive plus tellement bien à comprendre notre pays, et y compris même dans nos entreprises. Pourtant, on fait du chiffre, on fait de la marge, etc. On n'arrive plus à comprendre nos collaborateurs, et nos collaborateurs n'arrivent plus forcément à comprendre ce qui se passe en France.
Il y a un déficit de sens. Voilà. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs d'une manière générale dans votre livre. Ce qui est d'ailleurs assez plaisant, c'est que vous essayez d'en redonner précisément à ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, je dirais même que pour répondre à, dans le continuum de ce que disait Philippe Delmas, c'est sur ces questions, être heureux, est-ce que vous touchez à cette dimension du bonheur, etc. Je dirais que les Français aujourd'hui répondent de façon contrastée, parce que être heureux, bah, ça veut dire que vous avez quelque part un rêve qui vous mobilise. Le bonheur, bon, il est lié à cette modernité, à cette vision de la modernité que vous expliquez très bien dans votre livre. Or, aujourd'hui, quand on regarde bien le fonctionnement de la France, on est quelque part dans une crise singulière qui se situe entre, ce que je disais, entre les symptômes de l'Argentine, les symptômes de la Yougoslavie et les symptômes du Liban. Alors, je sais que ça va faire frémir tout le monde quand je dis ça.
Un peu peur quand même. Hein. J'ai annoncé une émission optimiste.
Je dis bien les symptômes.
Je vais devoir vous interrompre pour marquer une pause, mais on revient là-dessus après, parce que là, vous allez devoir vous expliquer. À tout de suite, vous êtes dans les grands débats de BFM.
Bourse, placement, banque, assurance, immobilier, retraite. Avec BFM et la BPE, Banque Privée Européenne, testez vos connaissances tous les samedis et gagnez 1000 euros en jouant au défi d'initié. Inscrivez-vous sur www.bpe.fr. Le défi d'initié avec la BPE, Banque Privée Européenne, c'est 1000 euros à gagner tous les samedis à 11h45 sur BFM.
BFM, la radio de l'écho.
Et tout de suite, la bourse avec Gaëtan Mélin.
Et le CAC 40 en baisse, hein, moins 0,4%, 5 438,24 points, avec côté devise, une monnaie européenne qui vaut à l'instant 1,3155 $ et un Brent toujours très élevé, 62,36 $ le baril à l'instant. Dans l'actualité des entreprises, à noter qu'Alstom a remporté un important contrat au Mexique avec l'Espagnol Iberdrola. Le groupe français a signé un contrat d'environ 470 millions d'euros pour la rénovation d'une centrale électrique située dans l'est du pays. Et puis après les Länders allemands, les régions françaises pourraient prendre entre 5 et 10% du capital de ADS. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Martin Malvy, le président de la région Midi-Pyrénées. Selon l'élu socialiste, les régions françaises seraient capables de réunir 150 millions d'euros pour rentrer dans le capital du consortium européen. 8 présidents de régions à majorité socialiste se sont engouffrés dans la brèche dans une lettre au Premier ministre Dominique de Villepin, et lui demande de définir les conditions d'une entrée dans le capital de la maison mère d'Airbus.
Un point sur les marchés boursiers. Tous les quarts d'heure, c'est uniquement sur BFM.
Et tout de suite sur BFM, eh bien vous retrouvez Vincent Giré et ses invités.
BFM, les grands débats du vendredi, Vincent Giré.
Comment sortir la France de la crise? J'ai invité les auteurs de trois livres rafraîchissants qui, eux, ne croient pas du tout au déclin de la France, nous disent au contraire que la France peut sortir de ce climat de morosité. Philippe Delmas, auteur de « Il n'y a pas de malheur français » aux éditions Grasset. Jean-Pierre Jouyet, auteur de « N'enterrez pas la France » aux éditions Robert Laffont. Et Xavier Guillou, qui signe « Quand la France réagira ». On reprend juste parce que je vous ai interrompu pour marquer la pause et pour écouter les nouvelles de la bourse. Mais vous nous disiez « Il y a dans ce qui se passe en France », j'avais annoncé une émission plutôt optimiste et volontariste, et vous nous dites les symptômes de ce qui s'est passé en Argentine, au Liban et en Yougoslavie, ce qui, quand même, jette un froid soudain. Xavier Guillou.
Bah, il faut faire réagir. Hein. Donc,
vous êtes là pour ça.
Des symptômes, ce n'est pas forcément la maladie. Hein, d'accord. Les symptômes sur l'Argentine, c'est quand même...
Vous me rassurez là.
C'est quand même l'affaire de la dette. Qui est, là je pense qu'on est tous unanimes là-dessus, qui est abyssale, enfin qui est quand même,
quand même
dangereuse.
Enfin,
non, mais on a quand même.
Le fait qu'on soit dans une situation.
Non, parce qu'on a une certaine richesse par derrière.
Je connais particulièrement bien Jean-Pierre Jouyet.
Mais il y a quand même une trajectoire depuis 30 ans. Il y a une trajectoire depuis 30 ans qui est malsaine et qui n'est pas bonne. Il y a derrière, la fuite des capitaux, la fuite des élites. Et surtout, ce qui me semble le plus important, la rupture de confiance entre les élites et la société civile. Parce qu'il y a des ingrédients macroéconomiques, vous savez, en matière d'économie, qu'on connaît bien tous, puis il y a des ingrédients psychologiques. Et je pense que cette rupture de confiance est majeure. Dans l'affaire yougoslave, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est la rupture du lien sacral État-nation. Et là, bon, je pense que vous en avez beaucoup parlé, Philippe Delmas, dans votre livre. Et je suis très sensible parce que la France est un... Et sur une configuration historique très particulière.
On est dans une société éclatée, diriez-vous.
Oui, et à partir du moment où, l'autorité de l'État s'est diluée, où la légitimité de nos institutions sont de moins en moins respectées, et où ça ne fait plus sens. Moi, je connais, j'ai vu plusieurs pays basculer hein, sur l'autre, comme disent les montagnards, sur l'autre versant de la crête, là où c'est verglacé. Hein. Là, vous n'avez plus le soleil. Hein. Et quand c'est verglacé, ce n'est plus la même chose, vous ne travaillez plus de la même manière. L'affaire libanaise, c'est 200 zones de non-droit que nous avons en France, que nous connaissons quand même depuis longtemps. Enfin, moi, j'étais chef d'entreprise quand même pendant pas mal d'années, donc je sais ce qui se passe quand même dans nos banlieues, toutes nos zones industrielles, nos zones d'activité, nos centres logistiques sont au contact de toutes ces cités qui sont aujourd'hui assez agitées ou assez difficiles à manager. Et là, moi qui ai connu Beyrouth et qui ai connu d'autres situations du même style, je peux vous dire que nous avons quand même des ingrédients avec cette montée des tensions communautaristes qui sont quand même très préoccupantes et qu'il ne faut pas laisser, durer ou s'installer comme on le voit.
Xavier Guillou, vous avez prononcé un mot qui est un des mots clés du livre de Philippe Delmas, c'est le mot de la confiance. Vous nous dites, Philippe Delmas, qu'aujourd'hui, la première question politique française, c'est finalement la question de la confiance.
Ah, j'en suis profondément convaincu. Une chose qu'on peut constater quand même, c'est que tous nos gouvernements ne sont pas constitués d'incapables, quelle que soit leur couleur, qu'ils ont dépensé énormément d'argent et que ça n'a pas créé pour autant un sentiment...
Y compris dans les banlieues, qu'évoquait Xavier Guillou.
Peu importe. Et moi, je crois une chose fondamentale, c'est qu'un gouvernement... un État, c'est pas une compagnie d'assurance. Et je pense que les prestations, les subventions, les allocations, ça fait du bien, mais ça fait pas du lien. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le lien.
Ça
c'est vraiment fondamental. Et
il y a un côté, d'ailleurs, c'est un livre d'un auteur dont le nom m'échappe juste à l'instant, qui pourtant vient souvent dans les grands débats. Il y a eu un côté État nounou.
C'est ce que Tocqueville écrivait déjà en 1850, c'est lorsque vous mariez. Tocqueville disait, on est en 1850, et Tocqueville vous explique que lorsqu'on marie l'individualisme des démocraties et la volonté d'un État administratif, comme il décrivait déjà la France et la France depuis Louis XIV, eh bien, on arrive à un État qui infantilise. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, effectivement, ça n'est pas un État qui nous aide, parce qu'il le fait très très bien, c'est un État qui nous donne confiance. Et il n'y a qu'une chose qui donne confiance, alors ça, l'entreprise le montre très très bien, c'est l'action. C'est le fait que les gens ont le sentiment que vous les emmenez quelque part et que vous ne les laissez pas sur le bord du chemin et que vous les emmenez, mais éventuellement un peu de force. Et ça, c'est vraiment fondamental.
Jean-Pierre Jouyet.
Non, moi, je suis assez d'accord avec Philippe Delmas pour dire que ce qui manque le plus, c'est le problème de perspective et de donner des perspectives. Et ce qu'on demande aux responsables politiques, au premier chef, c'est de nous donner des perspectives claires.
Qu'est-ce
qui
se passe aujourd'hui dans le monde ?
Une feuille de route.
Voilà.
Quel est l'état du monde ? Donner du sens à la France dans son rôle dans le monde et comment mener la France à la place qu'elle doit avoir dans ce monde et lui permettre de garder son rang.
Jean-Pierre Jouyet, vous savez mieux que quiconque combien c'est difficile de faire ce que vous demandez. Quand Lionel Jospin, par exemple, dit en 2002 « l'État ne peut pas tout », ce qui est une vérité d'évidence, il se le prend en boomerang,
oui.
Pardonnez-moi. Et,
là, il a été trop honnête et pourtant la vérité est là, comme le dit Philippe Delmas. L'État ne peut pas tout. Or, on demande tout à l'État et c'est ce qui nous différencie quand même des autres pays. Et en même temps qu'on demande tout à l'État,
on s'est structuré autour de notre État.
C'est
notre identité.
Or, comme de par l'ouverture des frontières, de par l'internationalisation dont nous bénéficions, parce qu'il ne faut pas croire les gens qui disent
que
voilà,
ce soit qu'une menace.
La mondialisation, elle comporte autant d'atouts.
Il n'y a jamais eu autant d'investissements étrangers en France.
Il n'y a jamais eu autant d'investissements étrangers. Moi, je voudrais voir ceux qui demandent effectivement plus de protection, plus de renfermement, plus de méfiance, ouais, à l'égard des autres et à l'égard du monde, ce qui se passerait si vous supprimiez un certain nombre de grands investissements étrangers en France. On voit bien à travers l'actualité ce que déjà provoque la suppression d'emplois industriels de la part de grandes entreprises. Alors, de l'emploi industriel, il y en a également de la part d'investisseurs.
Vous diriez, Jean-Pierre Jouyet, en même temps dans la campagne...
25%.
Oui, 25%. C'est quand même le quart de la richesse nationale. C'est le quart de la richesse nationale. Donc,
je rebondis sur ce que vous disiez, Jean-Pierre Jouyet, sur la nécessité qui est attendue aujourd'hui des politiques de nous éclairer, de donner du sens à la situation dans laquelle se trouve notre pays, à la mondialisation.
C'est le plus important.
C'est plus que du sens. temps, c'est des langues. Je vous cite un truc moi, qui m'a beaucoup frappé. J'étais au Brésil il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques mois, c'était juste au moment de la campagne de Lula. Et j'ai vu sur un mur une inscription extraordinaire qui était « Assez de programmes, nous voulons des rêves ».
Ouais, il faut se méfier aussi.
Qu'est-ce que ça vous dit
aussi? Parce que des rêves, je pense que dans la campagne à l'heure actuelle, on en a. Alors, et on en promet.
Je suis aussi, mais on va en parler justement.
Justement, je pense que ce que ça voulait dire, parce que c'est un pays pour lequel l'urgence est encore bien plus pressante, comme vous lisiez Xavier Guillou, que pour nous, c'est que les gens ont besoin, encore une fois, d'autre chose que la prochaine allocation ou le prochain truc. Ils ont besoin de comprendre
autre chose que d'un catalogue.
Qu'on les emmène.
Voilà.
Ils ont besoin de
savoir. Voilà. À l'heure actuelle,
on a besoin d'élan. On a besoin d'ambition.
Voilà. On a aujourd'hui des catalogues. On a des promesses. On a un peu de rêve, mais nous n'avons pas de direction et d'ambition pour le pays dans le monde tel qu'il est.
Exactement.
Or, ce dont a besoin un État pour bien fonctionner et ce que demandent les serviteurs de l'État avant tout aux politiques, c'est une direction.
Mais Jean-Pierre Jouyet, si je m'amuse à jouer le rôle du contradicteur, après tout,
c'est mon boulot. Vous êtes là pour ça, c'est normal.
Est-ce qu'en même temps, on ne pourrait pas défendre l'idée que la France a progressé là-dessus? Quand on se souvient de 81 et des discours d'utopie, de changer la vie, etc., est-ce que finalement, il n'y a pas aujourd'hui une sorte de retour au réel? On parle peut-être plus simplement, plus concrètement, et la pédagogie, le discours des experts a aussi infusé dans la société.
Vous avez tout à fait raison. Un des exemples que M. Guillou a cité qui est juste, moi je suis frappé de cela, c'est la dette par exemple. Qui aurait dit il y a 5 ans que la dette serait
partie
du programme du présidentiel. Bon, je trouve que de ce point de vue-là, et vous avez raison Vincent Giray, c'est que la campagne électorale que l'on dénigre également beaucoup est paradoxalement peut-être une des plus vivantes et des plus modernes que nous ayons connues ces dernières années, parce qu'elle est plus précise, parce qu'elle est quand même plus proche du réel. Ça, c'est un point. Et de ce point de vue-là, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Ce que nous disons également dans N'intéresse pas la France, c'est que la France n'a pas de problème très différent de ceux des autres. La crise de représentativité, la crise des classes moyennes, affronter les problèmes d'immigration, l'identité d'un pays par rapport au monde, ce n'est pas très différent en France et aux États-Unis.
Je vais devoir, avant de vous donner la parole, Xavier Guillou, marquer une pause. On se retrouve dans un instant. Vous êtes dans les grands débats de BFM.
Toute l'actualité du vin et des vignerons, les ventes aux enchères, les rencontres avec des personnalités du vin, c'est dans InVino BFM tous les samedis de 10h à 11h avec le bouchon en liège Diam. Diam respecte la nature et les arômes de vos vins. Diam, l'utilisation raisonnée du liège garantit sans goût de bouchon. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
BFM, la radio de l'écho.
Et Gaëtan Mélin va tout nous dire sur la bourse.
Eh bien, on est toujours en baisse. Une quatrième séance de baisse à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui recule encore de 0,3% à 5 444 points 79. Je vous rappelle tout de même que lundi, le CAC 40 avait clôturé au-dessus des 5 700 points. La chute est donc énorme. Côté devise, la monnaie européenne doit un instant 1,3153. Et puis le Brent toujours très élevé, 62,47 $ le baril à l'instant. Parmi les baisses, justement, on retrouve aujourd'hui le titre Lagardère. Il recule de 5,3% à 58,67 € avec une bizarrerie, puisqu'hier soir, le titre a clôturé en hausse de 7%. Et selon les informations du Figaro, un opérateur aurait tout bonnement confondu en clôture le code de saisie de Lagardère qui est MMB avec celui de M6 qui est MMT. ArcelorMittal pourrait être également concerné puisque le titre a clôturé également hier en hausse de 7%. Or, son code est MTP, là aussi donc très proche de celui de M6. Le titre Arcelor qui chute de 2,5% à 39,96 €. C'est une histoire qu'il faudra vraiment suivre de très près. A noter M6 qui fait partie des baisses aujourd'hui, moins 1,6% à 25,97 €. Et puis les choses ne s'arrangent pas non plus pour EADS qui affiche encore une très forte baisse aujourd'hui, moins 3% à 23,88 €. 8 régions françaises envisagent de monter un projet financier en vue d'entrer au capital du groupe d'aéronautique et de défense. Vous le voyez, les investisseurs n'y croient pas beaucoup. Maroc Télécom en hausse, plus 2,4%, 12,20 € l'instant, le groupe enregistre une progression de 16% de son bénéfice net l'an dernier. Et pour 2007, eh bien, il tape sur une croissance de plus de 6% de son chiffre d'affaires.
Les cordons de la bourse en temps réel, 36,67, le numéro boursier de BFM, 34 centimes la minute.
L'essentiel de l'info avec David Doba.
Une quinzaine d'étrangers, parmi lesquels au moins 10 Français, ont disparu en Éthiopie. Selon l'ambassadeur de France présent sur place, ils auraient été enlevés mercredi alors qu'ils visitaient une région située dans le nord-est du pays. Chaque convoi était pourtant, semble-t-il, escorté par des policiers. 53,5% des voix pour Nicolas Sarkozy, 46,5% pour Ségolène Royal. C'est ce qui ressort du dernier sondage Ipsos publié ce matin. A noter qu'au premier tour, le candidat UMP obtiendrait 31,5% du suffrage, 26% pour la candidate socialiste. François Bayrou reste le troisième homme avec 18% d'intention de vote. En attendant, eh bien, Ségolène Royal a accentué hier soir ses critiques contre ses principaux adversaires en meeting à Mont-de-Marsan dans les Landes. Elle a jugé la droite disqualifiée pour permettre le succès de la France. Elle a par ailleurs accusé le leader IDF de vouloir brouiller les cartes. Les tornades qui ont sévi la nuit dernière dans l'Alabama et le Missouri aux États-Unis ont fait 16 morts. Le bilan a finalement été revu à la baisse ces dernières heures. La Corée du Sud a officiellement annoncé ce matin la reprise de son aide humanitaire envers son voisin du Nord, un geste de bonne volonté après l'engagement de Pyongyang de démanteler ses installations nucléaires. La Russie tape du poing sur la table. Moscou a en effet menacé de suspendre les importations de produits d'origine animale en provenance de l'Union européenne si les Européens refusaient de lui fournir avant le 31 mars prochain des rapports sur la qualité des produits importés pour chaque pays de l'UE. Enfin, avis aux astronomes amateurs, une éclipse totale de lune sera visible dans la nuit de samedi à dimanche, si le temps le permet bien évidemment. En France, notamment, le phénomène pourra être observé entre 21h18 et 3h du matin.
Merci d'écouter BFM, il est 11h30. Et on poursuit avec vous, David, avec le journal de l'économie.
Les régions françaises pourraient prendre entre 5 et 10% du capital de ADS. C'est en tout cas le souhait de Martin Malvy, une décision prise après l'annonce du plan de restructuration drastique de sa filiale Airbus. Selon le président de la région Midi-Pyrénées, les régions à majorité socialiste seraient capables de réunir quelques 150 millions d'euros. En attendant, eh bien, les salariés d'Airbus manifesteront mardi. Une demi-journée de grève est organisée à l'initiative de Force ouvrière, de la CFDT et de la CGT. Les syndicats entendent ainsi dénoncer le fameux plan Power 8. Les trois fédérations estiment en effet que le PDG d'Airbus, Louis Gallois, les a sacrifiés face aux pressions allemandes. Félix Chiaramonet, pardon, délégué syndical de la CGC Airbus France.
Il y a encore 8 jours, on avait l'impression que les choses étaient assez bien équilibrées et que, quelque part, tout le monde y trouvait à peu près son compte, parce que on sait très bien que, de toute façon, il faut essayer de redresser l'entreprise et que le plan Power 8 était là pour ça, mais pas au détriment, je dirais, d'une filiale ou d'une autre. Or, en 8 jours, il y a eu un retournement de situation, on a l'impression, en faveur de nos collègues allemands. Alors, est-ce que c'est la pression mise en commun entre les politiques allemands, les syndicats allemands, les pouvoirs publics allemands qui ont fait que la balance a penché un tout petit peu pour la filiale allemande, et on a l'impression quelque part d'être passé un peu à côté, peut-être parce que nous n'avons peut-être pas mené les actions comme nous aurions dû les mener peut-être auparavant, et nous n'avons jamais été supportés par nos politiques et par l'État français.
Félix Chiaramonté, le délégué syndical CGC Airbus France, au micro de Mathieu Sévin. Par ailleurs, pour en finir avec le sujet, eh bien, sachez que faute de clients, Airbus a finalement décidé de geler la fabrication de la version fret de son Super Jumbo. C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir, dans un climat qui s'annonce d'ailleurs tendu, les négociations entre syndicats de médecins et assurance maladie. Les généralistes souhaitent en effet voir passer leur consultation à 23 €. De son côté, l'UNCAM veut la limiter à 22. Il faut dire que le passage aux 23 € coûterait 500 millions en année pleine à la Sécu. En outre, des négociations sont en cours pour revaloriser d'autres professions de santé. 14 personnes ont été inculpées outre-Atlantique par la justice et les autorités de régulation boursière américaine. Elles sont soupçonnées d'avoir purement et simplement échangé illégalement des informations financières confidentielles. La plupart d'entre elles appartenaient au secteur financier de Wall Street. La division transport et logistique du groupe Bolloré va accroître sa présence sur le marché britannique en rachetant la société locale J.E. Bernard. Le montant du contrat n'a pas été divulgué. J.E. Bernard réalise 140 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 350 personnes en Grande-Bretagne. Enfin, le processus de vente de l'Olympique de Marseille par Robert Louis Dreyfus à Jack Cashcar a connu hier une avancée décisive après l'annonce par l'homme d'affaires canadien d'un accord définitif de cession. Toutefois, eh bien, ses propos ont été partiellement nuancés. Merci d'écouter BFM, il est 11h33.
Toutes les demi-heures, un journal de l'économie uniquement sur BFM.
Et jusqu'à midi, vous retrouvez la suite et la fin des débats de Vincent Giray.
BFM, les grands débats du vendredi. Vincent Giray.
Et l'on poursuit notre débat, comment sortir la France de la crise, avec Jean-Pierre Jouyet, chef du service de l'inspection générale des finances, co-auteur de N'enterrez pas la France aux éditions Robert Laffont, Philippe Delmas, Il n'y a pas de malheur français aux éditions Grasset, et Xavier Guillou, auteur de Quand la France réagira aux éditions Erol. Jean-Pierre Jouyet, on prend cette émission avec vous. Je citais tout à l'heure Saint-John Perse, qui est une citation mise en exergue par Philippe Delmas. Il y a aussi une belle citation dans votre livre, elle est de Jean-Jacques Rousseau, « Le plus lent à promettre » est toujours le plus fidèle à tenir. Et cette citation vient en exergue d'un chapitre que vous avez appelé « N'oublions jamais la grammaire de la réforme ». C'est quoi aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, la grammaire de la réforme? Est-ce qu'on la connaît, cette grammaire, cette fameuse grammaire?
On essaie de la déchiffrer, et je crois que, justement, en tant que serviteur de l'État, vous voyez ce qu'elle peut être. Ce qui ne marche pas en France, c'est l'application de modes de réforme à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que je ne crois pas que ce soit un pays qui aime le sang, la sueur et les larmes, la France. On peut peut-être le regretter, mais ce n'est pas comme ça. La France a toujours accompli ses réformes d'une manière plus lente que les autres. Vous prenez les différentes périodes de
Il n'y aura pas de choc ou de rupture du type Margaret Thatcher Grande-Bretagne ou Reagan aux États-Unis.
Sur deux ou trois aspects, vous avez toujours besoin d'avoir un électrochoc. Il faut sans doute en avoir un aujourd'hui.
Après tout, nous en avons aussi dans notre histoire, Jean-Pierre Jouyet. De Gaulle, 58.
Vous avez De Gaulle, 58, c'est le dernier. Vous avez dans une certaine mesure François Mitterrand en 1981. Et vous avez eu celui qui a sans doute le plus adapté au départ, ce qui était le mode de réforme à la française, qui était Giscard d'Estaing en 74. Bon, mais c'est justement là. Et vous voyez qu'il y a eu un certain nombre d'électrochocs. De Gaulle, je ne rappelle pas les circonstances historiques, mais enfin,
elles étaient quand même exceptionnelles.
Mitterrand, cela venait après une exclusion de la gauche pendant 23 ans des affaires publiques. Je crois qu'il faut des électrochocs. Il en faut un aujourd'hui, très certainement, sur ce qui est enseignement, formation et enseignement supérieur. C'est sans doute la priorité.
Le cœur, hein, c'est
numéro un, et c'est le cœur quand même des handicaps français aujourd'hui. Il en faut certainement un aussi, comme l'a dit Philippe Delmas, sur ce qu'est l'État-providence et sur le fait que l'État ne peut pas tout faire. Mais qu'il y ait des électrochocs, c'est une chose. Que cela se transforme en rupture est une autre chose. Je crois qu'il y a un continuum,
il y a un modèle français. Il y aurait un danger à jouer la rupture.
Je crois qu'il le risque, et on montre différents exemples. Quand vous voulez jouer la rupture en 1995 sur les retraites, vous ne passez pas. Quand vous faites plus habilement avec le Conseil d'orientation des retraites, qui pose un diagnostic qui est partagé, vous arrivez à avancer.
À embarquer au moins un syndicat réformiste.
Mais vous arrivez à embarquer un syndicat réformiste. Or ça, c'est extrêmement important. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut quand même, quels que soient les électrochocs dont on a besoin, les trois sujets sur lesquels on doit agir, c'est l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, c'est la protection sociale et c'est le marché du travail. Il faut embarquer, effectivement, quand même deux ou trois organisations responsables et un certain nombre de citoyens, faire de la pédagogie pour évoluer en ce sens. Voilà ce que
Philippe
pourrait
Delmas.
Être la grammaire de la réforme.
Alors, Philippe Delmas.
Oui, je suis d'accord avec l'analyse fondamentale de Jean-Pierre, mais je voudrais aller un peu plus loin. Il y a quand même une chose qui est très frappante. Vous parlez aux dirigeants des réformes qu'ils ont faites. Ils ont le sentiment d'avoir fait des réformes considérables. Pourquoi ? Parce qu'ils les mesurent à l'énergie que ça leur a demandé. Vous parlez de ces mêmes réformes aux citoyens, ils ont le sentiment qu'il ne s'est rien passé. Et d'une façon générale, il ne se passe rien. Donc selon que vous mesurez l'effort ou selon que vous mesurez le résultat, vous avez des perceptions assez contraires quand même. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, les gens ont besoin de participer au mouvement. Ils en ont besoin. Et ils n'ont pas le sentiment, dans le type de processus très complexe, très lent et très, par nécessité précautionneux que Jean-Pierre Jouyet décrit, vous avez ce sentiment de frustration. Il y a une chose qui n'existe pas en France, qui fait le succès des réformes de la plupart des pays du monde aujourd'hui, c'est le droit à expérimenter la chose. Nous sommes victimes d'une étroitesse d'esprit extraordinaire, comme si la République était encore une chose fragile, qui est que nous ne donnons pas à des collectivités, je pense évidemment aux régions, c'est la bonne échelle, le droit d'expérimenter les trucs. Regardez un débat comme celui sur la carte scolaire. Il est impossible, nous le savons tous, pour de multiples tentatives depuis 20 ans, d'avoir des lois nationales ambitieuses sur l'éducation nationale. C'est un sujet trop sensible, il y a eu trop d'échecs, il y a trop d'intérêts, c'est trop compliqué. Si demain, vous autorisiez des régions qui le souhaiteraient à réformer pour une durée limitée pour voir ce que ça donne, la carte scolaire ou le pourcentage d'éducation, d'enseignement privé dans l'éducation ou le mode de financement des universités vous avez des régions qui sont demandeuses de ça, tout de suite. Vous verriez, effectivement, les gens participeraient au mouvement dans ces régions-là, ils seraient vraiment intéressés, ils en seraient fiers, et vous verriez ensuite, à l'échelle de la nation, la possibilité d'élargir ça. Et c'est vrai dans tous les domaines, la santé, l'hôpital, la recherche, ce que vous voulez.
Expérimenter, Alors, avant de donner la parole à Xavier Guillaume,
y compris en dérogation des lois. Il
y a une maison qu'il connaît bien, c'est Bercy, c'est le ministère des Finances, et pour cause, et s'il y a un ministère qui a, ces dernières années, me semble-t-il, tenté d'expérimenter, y compris dans le domaine fiscal, hein, de la gestion de la DGI ou de la comptabilité publique, par exemple, ou de la DRE. Quel fruit ça a donné ? Est-ce qu'il n'y a pas précisément une piste intéressante ?
Non, mais sur la grammaire de la réforme, là, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Delmas, il faut passer d'une approche de haut en bas autoritaire à une approche, j'allais dire, d'expérimentation
latérale
et de faire de bas en haut. Prenez l'exemple de la réforme du ministère des Finances. En 2000, elle échoue parce que par manque de concertation, par manque d'appréciation d'un certain nombre de elle fait tomber un ministre. 5 ans après, vous regardez que les regroupements entre la Direction générale de la comptabilité publique et la Direction générale des impôts sont en train de se faire. Vous avez des maisons communes.
Grâce à l'informatique, hein, beaucoup.
Grâce à l'informatique.
Et à l'expérimentation.
Grâce à l'informatique et à l'expérimentation. On est parti, effectivement, des régions, des départements. Ce sont les directeurs des services fiscaux, ce sont les directeurs, les trésoriers payeurs généraux, sous la houlette de directeurs généraux des impôts, de directeurs généraux de la comptabilité publique, François Villeroy de Gallo, Jean Bassère et leurs successeurs, qui ont fait en sorte qu'il puisse y avoir ce mouvement de réforme. Ce qui montre que la France n'est pas irréformable, que l'administration, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas irréformable. Aujourd'hui, vous avez des évaluations de cadre supérieur, vous avez des primes et des intéressements au mérite, vous avez de l'intéressement collectif. Tout ça est en train de bouger, mais bouge dès lors que vous associez les acteurs à la base. Et comme trop souvent, nos responsables politiques font, comme le dit Philippe, beaucoup d'annonces au départ, les gens ne voient rien, alors qu'il faudrait au contraire commencer à agir et faire les annonces.
Modestie
après,
de l'annonce et surtout volontarisme de l'action.
Volontarisme de l'action et faire des actions concrètes.
L'homme d'action qui est Xavier Guillou, qu'est-ce qu'il en dit ?
Moi je suis perplexe, je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que aujourd'hui ce n'est pas d'une grammaire de la réforme dont nous avons besoin, c'est d'une grammaire de la mutation. Les mutations, le monde civil, le monde de l'économie, le monde des entreprises les ont vécues déjà depuis 20 ans au contact de la mondialisation, de la globalisation. Et on est dans une espèce de schizophrénie ambiante où les gens vivent au quotidien des choses incroyables sur le front, je dirais, de ces transformations de vie, quoi, hein. Et puis un État qui, lui, prend le temps de se réformer en étant en même temps dans un discours sur l'urgence. Permanente, hein, et une urgence permanente qui...
L'État est sur le qui-vive. Hein,
oui, mais qui est malsaine, parce que cette urgence permanente, elle est combinée entre le politique, le médiatique, et puis ce que vous expliquez très bien dans votre livre, et qu'on connaît, hein, c'est-à-dire tout ce côté courtisan, clanique que l'on a aujourd'hui dans l'administration, qui a émergé depuis une quinzaine d'années.
Ça, c'est vrai, ça subsiste.
et
Jean-Pierre Juillet qui vous le dit.
Non, et ça crée, si vous voulez, autour de cette grammaire de la réforme, une agitation qui n'est pas bonne et qui n'aboutira à rien. Donc moi, j'ai vécu un certain nombre de restructurations dans des entreprises, des restructurations importantes. J'ai accompagné des sorties de crise dans un certain nombre de pays. Quand on est sur cette ligne de front-là, on recule constamment l'échéance, on n'arrive à rien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est entamer une grammaire de la mutation. Je ne dis pas de la rupture, de la mutation. Et travailler beaucoup plus sur les priorités que sur les urgences. Et les priorités, ça suppose de remettre en première ligne la notion de responsabilité avec des engagements précis sur des lignes d'horizon que tout le monde appelle, hein. Et puis je dirais qu'il faut aussi, parce que je pense que derrière la crise de sens que nous vivons, hein, et que nous avons tous explicité au début avec cette rupture de confiance, etc., cette crise de sens fait le pendant à une crise de pilotage sans précédent. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle d'ambition, vous le dites très bien dans votre livre, c'est le problème à un moment donné du chef, quoi. Il faut un pilote. Moi, je suis plutôt marin, donc je dirais il faut un commandant à la passerelle, quoi. Je veux dire. Et aujourd'hui,
on ne l'a pas.
Mais non, vous savez, on a l'impression aujourd'hui.
On ne l'a pas. Pourquoi, Xavier Guillou?
On ne l'a pas parce que on est.
C'est un problème de formation. C'est un problème.
C'est un problème qui remonte à 30 ans. Ils ont 3 décennies.
De culture politique.
On n'a plus de culture politique. On a une culture administrative. qui s'est installé sur les registres de la politique, qui s'est installé aussi bien à l'Assemblée nationale, qui s'est installé à la présidence de la République, qui s'est installé un peu partout. Donc on n'est pas sur une culture du politique au sens où quelqu'un...
Ça c'est peut-être un point commun que vous avez tous les trois, c'est que vous avez envie de politique.
Oui, mais qui n'a pas d'intérêt particulier ou d'intérêt de clan ou de corporation et qui incarne un intérêt général. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette dimension de, je dirais,
d'ampleur.
Du reste, vous le dites très bien dans votre... Oui, je fais la publicité de votre livre.
C'est vous avez dit « You » par la, à Philippe Delmas.
À la page 165, vous dites « Agir, c'est se lever dans la radicalité du geste qui fait mettre debout ». Moi, chaque fois que j'ai vu une situation, si vous voulez, de success story en matière de redressement d'entreprise ou de redressement de pays, c'est chaque fois qu'on a eu quelqu'un qui a été capable de remettre tout le monde debout. Ce qui nous manque aujourd'hui.
Oui, là, mais je vais vous interroger sur l'homme providentiel. Jean-Pierre Julien, on va marquer une dernière pause. On se retrouve dans un instant. Vous êtes dans les grands débats de BFM.
Le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio, BFM Academy 2007. Le 3 mars, ils reviennent sur BFM. Darty.
Choisir la Darty Box, c'est faire le choix de la liberté. Avec un abonnement sans durée d'engagement, ni frais de résiliation en zone dégroupée. Choisir la Darty Box, c'est aussi faire le choix de la confiance avec plus de 3500 spécialistes Darty travaillant exclusivement dans les métiers de service pour être toujours à vos côtés, 7 jours sur 7. Internet, téléphonie, télévision. Darty Box, pour vous, tout Darty s'engage.
Bonjour, c'est Annie Cordy. Venez participer au salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Les 16 et 17 mars, espace Charenton à Paris. Ateliers, conférences et expositions vous attendent. Recevez une invitation gratuite en appelant l'AFP le 01 40 03 02 00. 01 40 03 02 00.
BFM, la radio de l'écho.
Allez, on part tout de suite à la bourse avec Gaëtan Mélin, voir si ce qui se passe n'est pas l'amorce d'un changement de conjoncture internationale.
Eh bien, en tout cas, une nouvelle séance de baisse, quatrième, Vincent, moins 0,3%, 5441,93. La purge entamée se poursuit donc avec, bien évidemment, des secteurs plus affectés que d'autres. À noter, côté devise, la monnaie européenne qui vote 1,3161 et puis toujours... Une remontée des cours du pétrole. Le Brent se négocie à Londres à 62,44 $. Le baril sur le SRD. La plus forte baisse revient toujours à Lagardère, moins 5,5%, 58,60 €. À l'instant, Adecco qui a déçu les investisseurs est en baisse de 3,6% à 48,65 €. EADS, nouvelle séance de baisse, moins 2,5%, 24 €. La Score est en baisse de 2% à 18,41 €. Euraseo, moins 2%, 106,70 € à l'instant. Et puis côté haut, c'est bien notre infogramme qui progresse encore de 13% à seulement 26 centimes d'euros. Vallourec bien orienté, plus 3,5% à 189 €. Ubisoft, plus 2,3%, 32,29 €. Capgemini est en hausse de 2,5% à 52,28 €. Air Liquide, plus 2%, 172 €. Et Alten, plus 1,7%, 27,06 €. Voilà, je vous rappelle, donc à la Bourse de Paris, pour le moment, le CAC 40 est en repli de 0,3%.
Un point sur les marchés boursiers. Tous les quarts d'heure, c'est uniquement sur BFM.
Et tout de suite sur BFM, eh bien vous retrouvez Vincent Giré et ses invités.
BFM, les grands débats du vendredi, Vincent Giré.
Comment sortir la France de la crise? Trois livres, trois auteurs. Xavier Guillou, Quand la France réagira aux éditions Erol. Philippe Delmas, Il n'y a pas de malheur français aux éditions Grasset. Jean-Pierre Jouyet, N'enterrez pas la France aux éditions Robert Laffont. Juste avant la pause, Jean-Pierre Jouyet, Xavier Guillou nous expliquait qu'il y avait une crise de pilotage, une crise du chef en quelque sorte. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours dans cette culture française cette idée de l'homme providentiel? On le trouvait aussi chez Nicolas Pavray par exemple, dans La France qui tombe. On sent qu'il rêve d'un nouveau 58. Je posais la question à Jean-Pierre Jouyet, mais je vois que Philippe Delmas veut répondre
parce que,
tout de suite.
Il y a une, juste pour ce qu'on disait avant la pause, vous demandiez pourquoi au fond, on n'a pas de chaleur. Il y a une citation d'Anna Arendt que je trouve extraordinaire là-dessus, où elle dit « La bureaucratie comme gouvernement de personne, avec une majuscule à personne, voilà qui est identique à la mort de l'État. Là où personne ne gouverne, le concept occidental de gouvernement a perdu son crédit. » Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est que face à une opinion... Et c'est vrai dans tous les pays qui ne croient pas aux prescriptions, qui ne croient pas aux paroles d'experts, qui se méfient des paroles d'autorité, les pays, et notamment un pays comme le nôtre qui ajoute un fond de scepticisme assez habituel, devient extraordinairement difficile à gouverner. Parce que si vous ne faites rien, on vous tombe dessus. Si vous faites quelque chose, il y a toujours des gens qui se lèvent pour protester. Et vous êtes donc dans une situation où vous êtes obligé de faire de la réforme cachée. Et comme le disait Jean-Pierre Jouyet très très bien, ça allait effectivement par des démarches extrêmement progressives.
Surtout de rien dire.
On entend parler le moins possible que tout d'un coup on constate que les choses se font. Alors, l'homme providentiel là-dedans, ça n'est pas du tout. Alors, moi je suis absolument opposé à l'idée de Bavresse qui est un passéiste incurable. Le retour, comme le disait Jean-Pierre Jouyet, au monde il y a 20 ans, a fortiori 50 et pourquoi pas 500, c'est pas ça. Ce qui est demandé, c'est ce que nous disions tout à l'heure les uns et les autres, c'est que c'est quelqu'un effectivement qui se lève et qui donne une direction aux choses. Et l'étymologie du mot chef pour ça est extrêmement intéressante. Le chef, c'est celui qui se lève et qui cherche des hommes pour entreprendre quelque chose. C'est l'étymologie du mot chef. Et c'est ça. C'est pas Bonaparte ou Pont-d'Arcole, le chef. C'est juste celui qui se lève et qui donne une direction et qui donne aux autres l'envie de se lever.
Ça ressemble peut-être à l'idée de diriger l'entreprise. Jean-Pierre Jouyet.
Non, même, d'ailleurs, je pense que même Bonaparte aujourd'hui n'aurait pas pris le Pont-d'Arcole de la même façon. C'est ce que certains dirigeants politiques n'ont pas compris.
D'ailleurs.
Il n'a jamais pris le Pont-d'Arcole comme ça. Bon, non. Mais je ne crois pas effectivement à l'idée d'homme providentiel. Je ne crois pas que ce soit ça dont nous avons besoin. Et la France vit dans ce mythe et ça ne s'est malheur par rapport à d'autres pays. C'est qu'elle croit toujours qu'un homme providentiel va arriver.
Elle en a eu quelques-uns.
Elle peut se remettre. Deux, ça fonde le populisme et ça fonde aussi bien un populisme de droite qu'un social-populisme de gauche qui existe également et qui n'est pas une bonne chose pour le pays parce que vous coexistez. Là, je suis assez d'accord avec Philippe Delmas. Vous voyez coexister d'une part une bureaucratie qu'on juge trop importante mais qui existe parce qu'elle comble un vide et d'autre part des attentes qui ne sont pas satisfaites et qui nourrissent un populisme, moi, qui me paraît extrêmement grave. Et une des principales dénonciations que je veux faire dans ce livre, c'est effectivement une tradition populiste française que, plus ou moins implicitement, beaucoup de responsables politiques cherchent à entretenir. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un dynamisme collectif, d'une confiance collective, et nous avons les atouts pour ça, notamment sur le plan démographique, sur le plan technologique. On a besoin davantage de pédagogie de la part des responsables politiques et qui donnent du sens, plutôt que de démagogie et d'idéologie. Et enfin, pour agir, nous savons à peu près tous les trois ici ce qu'il convient de faire. Le problème est de savoir comment faire. Et le problème du politique, c'est à la fois de donner du sens, mais d'être également un bon exécutant, ce que sont les entreprises. Et le retard qui existe de la sphère publique par rapport à la sphère privée, qui a beaucoup progressé en 20 ans, qui a progressé énormément en France aussi, c'est quand même le fait que l'on ne fasse pas assez attention à l'exécution et qu'au contraire, les hommes politiques ou les femmes politiques veulent incarner la providence alors qu'on leur demande avant tout d'être des bons artisans comme le sont les leaders démocratiques dans l'Union européenne.
C'est une excellente expression.
Quand vous définissez le profil comme ça, hein, j'allais dire de ce dont on a besoin, ça me fait penser à celui qui a dit qu'on avait besoin d'un Jacques Delors jeune, Xavier Guillou.
Oui.
c'est pas ce qui lui est réussi le plus mal actuellement.
Ouais. Moi, je reviens sur le propos et je vais utiliser une métaphore maritime, si vous le voulez bien. Je disais tout à l'heure, il y a personne.
C'est le breton qui parle là. Hein.
Oui, c'est le breton, le marin. Les gens de la marine nationale me comprendront très bien. Je veux dire, on est dans une situation aujourd'hui où le commandant à la passerelle tourne le dos à la mer. Je dirais que même ces équipes autour, qui sont avec beaucoup de consultants en communication, n'en ont rien à faire de la mer, alors que la mer est en train de se former et que la météo devient très mauvaise. Quand vous regardez la situation internationale aujourd'hui, enfin, les informations que vous donnez, etc., au fil de l'eau, hein, je veux dire, on a quand même un certain nombre de signaux.
C'est vrai que cette campagne électorale,
ce que dit M. Guillou est très, très important. Simplement appuyer M. Guillou là-dessus. Il se passe quand même, on voit bien que la météo évolue très, très vite, que le début de la semaine, informations économiques venues du monde entier, d'Asie, d'Amérique, montrent quand même que nous entrons dans des zones de turbulence, qu'il y a un changement de climat. Et dans la campagne électorale française, il n'y a aucun changement de climat. Le catalogue n'est pas modifié. On garde le catalogue hiver-automne 2006 et on s'aperçoit que le printemps-été 2007 est peut-être pas la même mode.
Et donc, moi, je dis la chose suivante. Aujourd'hui, ce qu'il faut, sans tomber dans cette espèce de sublimation du chef, parce que qu'on a changé de période. Ouais. Je crois qu'on est en train de régler 1000 ans d'histoire ou 5 siècles d'histoire. Ça dépend comment on voit notre profondeur historique.
Mais le dit dans son livre, l'attente des Français envers le pouvoir est transformée.
Oui, mais on vit une transformation au niveau mondial qui est majeure. Et donc, nous avons à transformer notre État, notre mode de gouvernance, notre mode de pilotage. Et dans ce mode de pilotage aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'une équipe à la passerelle. Mais on a quand même besoin d'un commandant qui est assis sur son siège, qui, je dirais, indique la voie, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de cap, qui facilite la prise de risque au niveau de son équipage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est plutôt dans la précaution permanente.
Y compris dans ce que vous entendez dans la campagne électorale ?
Ah bah oui, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'assurer, de sécuriser la population, etc. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, ce qu'il
faut... Ceinture, bretelles et
parachute. Ce qu'il faut, c'est indiquer que la mer est mauvaise. Et quand la mer est mauvaise, la météo est mauvaise, je suis désolé, mais il y a un vieux dicton de marin qui dit « si tu veux saluer les grains, arrondis les pointes hein. ». Et puis, il faut surtout mettre de l'espérance. Parce que quand vous êtes sur une mer qui est mauvaise, eh bien, pour que les gars gardent le cap et puis, aillent sur l'objectif, il faut mettre un peu plus, si vous voulez, que du simple espoir au quotidien. Il faut mettre de l'espérance. Et ça s'incarne. Et je veux dire, quand vous n'avez pas un bon commandant et avec un équipage, et je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'équipage, c'est qu'il faut le restreindre, c'est qu'il faut le réduire.
Jean-Pierre Julien,
là-dessus, je suis tout à fait d'accord.
On ne peut plus gouverner avec 50 ministères, etc. Il faut réduire la voilure.
Et tous ceux que je connais qui ont réussi comme ça.
Messieurs, vous ne pouvez pas demander qu'il y ait moins de fonctionnaires sans qu'il y ait moins quand même de composantes ministérielles.
Voilà une cohérence, ce sera le mot de la fin. Au moins, vous êtes d'accord là-dessus. Merci, je renvoie à vos trois livres qui sont vraiment des vrais plaisirs à lire. Philippe Delmas, Il n'y a pas de malheur français chez Grasset. Xavier Guillou, Quand la France réagira chez Erol. Et le livre de Jean-Pierre Jouyet et Philippe Mabille, N'enterrez pas la France, chez Robert Laffont. Voilà, j'ai eu grand plaisir à animer ces grands débats et j'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain sur BFM. Cette émission était préparée par Graziella Rodriguez.